RCF.
Ils sont 7, il y a 6 micros autour de la table. Le 18-19 en région, présenté par Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz, c'est tout de suite.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, nous avons pas mal d'invités autour de nous, nos chroniqueurs habituels du mercredi. Le mercredi, c'est Robert Auverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît.
Et aussi Fernand Tavares qui nous parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, car il suit bien sûr les événements. Mais notre invité, j'allais dire, d'honneur ce soir, il vient de Bordeaux. Et il a été à Reims pendant de nombreuses années. Il s'appelle Jacques Yves. Beaucoup peut-être d'auditrices ou d'auditeurs le connaissent. Pendant de nombreuses années, il s'est occupé avec Daniel et Anne-Marie Guerlain de la librairie Guerlain, Place d'Erlon. On parlera de livres et surtout de son dernier livre, Que lentement passent les heures. On aura l'occasion d'en parler. Jacques, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors le Bordelais que vous êtes, redécouvre Reims, ça vous fait un petit pincement au cœur à chaque fois que vous
venez. Ah bah oui, parce qu'on revoit les amis, les vieux amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, la famille, et puis les clients. Je suis passé à la librairie, oui.
Et puis on vous retrouve à 10h30, ce sera samedi prochain, le 25 novembre, et ce sera à la médiathèque de Joncherie-sur-Vel où vous dédicacerez votre livre. Il faut dire, Alexis, qu'il y a aussi d'autres interventions ce soir.
Effectivement, nos stagiaires qui sont fidèles, qui sont là, notamment Mathéo, notre stagiaire de 3e. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
Que vous retrouverez à l'intérieur du journal régional avec la météo et puis le grand frère du stage en 2e année de BTS, Kylian Janot est là. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
Il interviendra quand il aura envie dans l'émission.
Voilà,
c'est un peu le Joker.
On aura l'occasion de nous retrouver. Jacques Yves est avec nous. Alors, la première rubrique que nous allons aborder, c'est une rubrique qui concerne les mots. Et le libraire que vous êtes, ça va vraiment l'encourager, ça, les mots. Ah. Les mots, c'est votre truc. Hein,
oui, j'aime les mots.
Vous aimez les mots, vous aimez écrire. Et ce soir, en un mot, aujourd'hui, Robert Auverger, rebonsoir.
Rebonsoir, Jean-Pierre.
C'est l'ascenseur social. Notre thème d'aujourd'hui, c'est une métaphore en deux mots. Et vous nous direz s'il fonctionne bien, cet ascenseur social, ou s'il est en panne. Mais tout d'abord, un peu d'histoire à quand remonte la construction des ascenseurs d'habitation.
À la fin du 19e siècle, plusieurs inventeurs, dont le plus célèbre est un certain Otis, eurent l'idée de nommer leur invention ascenseur, ce qui s'appelait auparavant un monte-charge.
Ne regardez pas quand vous dites ça, monte-charge, parce que moi je pense souvent à l'ascenseur. Alors, ce qui n'aurait pas été très flatteur vis-à-vis de la prise en charge d'humains, alors quelle est donc la racine du mot ascenseur? Ça vient d'où?
Ce mot vient du latin ascensum, c'est une forme du verbe ascendere qui signifie monter. Et cette racine, on la retrouve dans ascendant, dans ascendance, ou encore d'ailleurs ascension, mot qui, avec une majuscule, désigne l'élévation de Jésus-Christ dans le ciel. Alors, ascenseur a meilleure allure qu'élévateur, bien sûr, aujourd'hui réservé aux chariots de manutention ou que monteur ou remonteur.
Alors, qu'entend-on par ascenseur social cette fois? Est-ce que cette métaphore sous-entendrait que, contrairement aux ascenseurs des habitations, il ne fonctionne que dans le sens de la montée dans la hiérarchie sociale?
Ben, on peut le dire comme ça, oui. Contrairement aux ascenseurs de nos cités, l'ascenseur social est censé ne permettre que de s'élever, de progresser socialement, mais comme tout ascenseur, on peut imaginer qu'il peut descendre jusqu'à, parfois, transporter ses occupants dans les sous-sols de la société.
Alors, comment qualifie-t-on cette descente, cette fois, Robert? Vous êtes très provocant aujourd'hui.
En toute logique, on pourrait alors parler de descenseur, voire de descendeur social. Mais, comme il s'agit de descente dans les classes sociales, on préfère parler de déclassement social.
Connaît-on une époque où cet ascenseur a bien fonctionné?
Oui, on peut dire que le fonctionnement de cet ascenseur fut lié à l'évolution de la France au début du XXe siècle. 10% environ des enfants, des filles surtout d'ailleurs, de paysans et d'ouvriers, grâce à l'école de Jules Ferry, accédaient alors à de nouvelles fonctions, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Alors pour citer un chiffre, 2% seulement des enfants d'ouvriers atteignent le niveau Bac plus 2, contre 68% d'enfants de cadre supérieur.
Est-on certain du bon ou du mauvais état de l'ascenseur social?
Ben, les avis divergent selon les organismes officiels qui sont chargés de vérifier son état. L'INSEE, par exemple, nous dit, dans un rapport qui a été publié en juin 2022, qu'il n'est pas en panne, alors que France Stratégie, qui est un organisme rattaché à Matignon, prétend le contraire dans un rapport très récent.
Alors, quels sont les arguments de l'INSEE, Robert Auverger?
En résumé, parmi les enfants des 20% des ménages les plus modestes, 12% d'entre eux rejoindront à 28 ans les 20% les plus riches et globalement, 70% de ces jeunes gens issus de milieux modestes gagnent mieux leur vie que leurs parents.
Alors, quelle analyse fait France Stratégie qui prétend cette fois l'opposer, que l'ascenseur social est vraiment en panne ?
Oui, ben cet organisme observe quant à lui, et d'ailleurs je le cite, une quasi-stabilité de la mobilité sociale depuis 20 ans, malgré la cinquantaine de dispositifs existants, globalement modestes et qui donnent des résultats décevants. Autre constat fait par cet organisme, les inégalités se cumulent tout au long de la scolarité des élèves dès la petite enfance.
Et là, la petite enfance, on y reviendra, hein, les premières années d'enseignement, et d'ailleurs on pourrait évoquer tout cela avec Jacques Yves qui a eu un passé dans l'enseignement aussi, c'est vrai que dans l'enseignement primaire ça compte beaucoup. Alors si l'on admet que l'ascenseur social est en panne, en connaît-on les causes ?
Ben, permettez-moi auparavant une remarque, cela ne vous a pas échappé. On ne parle plus beaucoup d'ascenseur social, mais de mobilité sociale, ce qui atténue, voire même supprime, la notion de montée ou de descente.
Moi, j'aime bien cette métaphore d'ascenseur social, mais connaît-on les causes de la panne éventuelle ?
Oui, on peut en dénombrer plusieurs.
Alors, quelles sont les principales causes ?
Eh bien, cette panne d'ascenseur a probablement deux causes majeures intimement liées. D'abord, une panne d'éducation, principalement à la charge des parents, et une panne d'instruction qui est principalement à la charge des enseignants du public et donc de l'État.
Alors deux questions se posent avec vous aujourd'hui, Robert Verger. Qu'est-ce qu'au juste que l'éducation et qu'est-ce qu'au juste l'instruction ?
Eh bien, notons d'abord qu'il y a une énorme différence entre les deux termes. Le mot éducation, qui est issu du latin educatio, signifie conduire, guider, en particulier dans le domaine des valeurs. Instruire, c'est transmettre des connaissances. Alors en résumé, si on peut dire, l'éducation fournit des repères, l'instruction des savoirs, ou encore, comme le disait un texte de l'époque de la Révolution, l'instruction publique éclaire et exerce l'esprit, l'éducation doit former le cœur.
Pour terminer, Robert, avant de vous retrouver mercredi prochain, quelles sont les conséquences potentielles de cette panne d'ascenseur social ?
Ben, elles sont évidemment très lourdes. Au plan économique, c'est par exemple la perte de l'emploi, donc le chômage et donc la perte de salaire. Au plan social, c'est une insuffisance du milieu familial, c'est un échec de l'intégration qui entraîne un syndrome d'abandon ou un sentiment d'être l'objet de mépris, sentiment qui finit souvent par engendrer des colères, voire des révoltes.
Merci Robert Verger qui est avec nous le mercredi. Alors la semaine prochaine, vous avez un mot entre les mots, c'est celui que vous allez choisir et lequel, c'est lequel ?
Oui, ben nous partirons dans un autre pays, nous partirons en utopie.
Eh bien, bon voyage, on se retrouve la semaine prochaine, 18h18.
Le 18-19 sur RCF.
Alors on poursuit, Alexis, aujourd'hui on aura l'occasion de retrouver les maires prochainement, en particulier le maire d'Haussimont, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on nous retrouverons dans des prochaines émissions. Jacques Yves est avec nous, alors on va commencer avec vous 3 minutes, puis ensuite on poursuivra avec Fernand Tavares. Que lentement passent les heures. C'est le titre de votre dernier livre que vous dédicacez à la médiathèque de Jonchery-sur-Vel, samedi 25 novembre à 10h30. C'est une phrase que vous avez inventée ?
Non, je l'ai piquée. Je l'ai piquée à Apollinaire.
Vous aimez Apollinaire, c'est un écrivain, c'est un poète que vous appréciez.
C'est à la fois un poète que j'apprécie, c'était un homme extraordinaire, certainement totalement invivable, mais qui avait une énorme culture et qui est à l'origine de la découverte d'artistes comme Picasso, par exemple.
Oui. Alors, Jacques Yves, vous êtes aujourd'hui du côté de Bordeaux. Vous avez été pendant de nombreuses années au milieu des livres. Mais depuis toujours, vous êtes passionné des livres et vous vous êtes mis à l'écriture. Mais vous avez voulu être libraire. Et le jour, vous le racontez un peu dans ce livre, même si ce n'est pas autobiographique, que vous arrivez dans la librairie, ce jour-là, vous êtes content. C'était une autre librairie, on peut le dire ici, c'était la librairie Michaud.
Tout le monde s'en souvient.
Et là, vous êtes, ce jour-là, vous vous en rappelez comme si c'était hier.
Ah oui, complètement, oui. C'était en 1978, ça ne date pas d'hier.
Oh ben Alexis n'était pas né. Hein. Il était même loin d'être né.
Oui, je cherchais depuis des semaines, voire des mois, un stage, quelque chose qui me permette d'entrer dans ce lieu saint. Et
Vous avez trouvé Reims.
Et j'ai eu la chance, j'habitais Reims, et j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir commencer une
carrière. Vous êtes resté plusieurs années chez Michaud.
Suis resté 7 ans chez Michaud. Oui.
Et puis après, vous êtes allé chez la librairie Guerlain avec Daniel et Anne-Marie Guerlain.
Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel et Anne-Marie Guerlain.
Et là, c'était véritablement une aventure, presque une aventure de famille, parce que vous faisiez partie un petit peu de cette famille, comme tous les fondateurs, à un moment donné, ils reprenaient la librairie, et il y avait un engouement.
Il y avait un entrain, oui,
un
il y avait
entrain,
une envie.
Idées nouvelles.
Oui, 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 oui.
Alors, parmi ces idées nouvelles, on y reviendra tout à l'heure, vous faisiez venir des auteurs.
Oui.
Et ça, c'était pas rien, parce que vous alliez parfois les chercher à Paris, vous les raccompagnez à Paris.
Après une journée.
Après une journée particulièrement chargée. Ouais. Mais là, vous avez fait la différence. C'est-à-dire qu'à la librairie Guerlain, on s'y retrouvait, on faisait salon, mais c'était dans une bonne ambiance. Les chaises étaient au milieu des livres. Et vous avez eu ce qu'on appelle des pointures, des gens qui sont venus ici.
Oui, oui. On a, alors, l'idée, c'était, oui, d'organiser des conférences, de faire parler, en fait, les auteurs, plutôt que de simplement les inviter pour une dédicace. Bon, non, c'était les faire parler. Donc, il fallait quelqu'un pour les interviewer, ce que vous avez su faire avec brio.
Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'avais l'âge d'Alexis, là. Alors, on recevait, c'est vrai, Jean d'Ormesson, Amine Malouf. Tous ces grands auteurs.
Yves Berger.
Mais alors, justement, quand vous vous êtes mis à écrire, parce que vous avez écrit d'autres livres que celui-ci qui vient de paraître.
Hein. Oui, celui-là est le quatrième, en fait, le troisième publié. Ouais.
Alors, ces livres, vous les avez écrits, et le dernier en particulier, parce que vous vous êtes mis, d'une certaine façon, dans la peau d'un libraire qui va remonter le temps, qui va aller à la rencontre de ces auteurs que nous avons lus, mais à la fois en jouant avec eux, bien sûr, c'est pas vous, hein, puisque vous remontez le temps.
Mais, oui, je suis pas doué de.
Mais non, ça nous permet de les connaître avec des regards différents. Vous en avez choisi plusieurs. Il y a bien sûr Apollinaire.
Ouais.
Mais il n'y a pas que lui.
Non, il y a Blaise Cendrars aussi, et puis bon, il y a d'autres personnages. Hein. Bon, il y a
Jean Jaurès aussi.
Jean Jaurès, oui, oui.
Et alors, par exemple, ce qui vous fascine aussi, c'est que ces personnages, finalement, ils nous ramènent au livre, ils nous ramènent à la littérature, mais ils ont quand même une personnalité assez exceptionnelle, tous. Apollinaire, vous nous racontez qu'il avait été soupçonné d'avoir volé la Joconde.
Apollinaire avait des fréquentations douteuses, on va dire, et il a abrité pendant un certain temps un personnage ce personnage avait dérobé des statuettes au Louvre. Le Louvre était une passoire à l'époque, hein. On y entrait, on prenait, on sortait, hop. Et ce personnage avait donc piquer des statuettes dans les salles du Louvre. Et donc, la Joconde avait disparu.
Et on soupçonnait Apollinaire.
Et on soupçonnait le personnage en question, mais on a soupçonné également Apollinaire, puisqu'il l'hébergeait. Et Apollinaire, pour cela, a été enfermé à la Santé pendant 8 jours. Ça a été une épreuve terrible pour
lui. On va vous retrouver, Jacques Yves, tout au long de cette soirée, puisque vous êtes notre invité d'honneur. Et puis vous nous faites respirer l'air marin du bassin d'Arcachon, du côté d'Andernos. Donc ça nous fait un petit peu rêver. Vous, justement, Fernand Tavares, vous avez été à Bordeaux comme rédacteur en chef il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a des régions qui inspire, la Champagne Ardenne peut inspirer, le Bordelais aussi. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces itinéraires que vous avez faits?
C'était surtout à partir de Reims ou après Reims. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. On a parlé tout à l'heure de la librairie Michaud dans laquelle vous aviez travaillé. Moi, j'étais tout jeune journaliste et je me souviens d'avoir interviewé un homme que tout le monde connaît ou tout le monde s'en souvient peut-être encore aujourd'hui. C'était Maurice Genevoix. Et pour
14.
Un jeune journaliste comme moi, c'était vraiment quelque chose de très important.
Alors, Jackie, on vous retrouve, Jackie Vesse, dans un instant. Vous, Fernand, vous avez passé encore votre après-midi. Vraiment, vous êtes très, très motivé à suivre les débats à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces séances d'aujourd'hui?
Alors, on va pas parler du fond, parler de la forme. Voilà qu'on revient à quelques années en arrière sur la forme. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque où les questions au gouvernement, on les appelait d'ailleurs les questions du mercredi. Ça n'était retransmis sur FR3 que le mercredi. Pendant des années, je m'en suis occupé et ça durait 3 heures. Au bout d'un certain temps, les futurs présidents des assemblées se sont dit « c'est trop long, on va essayer de couper la part en deux », c'est-à-dire faire 1h30 le mardi, 1h30 le mercredi. Ça, ça a été sous Laurent Fabius. Et puis on a trouvé que ça devenait un peu trop ronron et Laurent Fabius a essayé de démontrer aux députés qu'il fallait être plus naturel quand on posait des questions. Il a voulu leur imposer, entre guillemets, ça n'a pas duré malheureusement, il dit « écoutez, au lieu de parler pendant 2 minutes en lisant un papier, ne parlez que pendant 1 minute sans papier ». Ça sera beaucoup plus naturel. Évidemment, c'était assez astucieux et ça aurait changé d'allure, mais ça n'a pas marché parce que les députés étaient tellement crispés que ça n'a pas duré. Alors puis on est revenu après à une seule séance, là, qui était le mardi. Encore, il vient de s'apercevoir que c'était trop long, comme dans le temps. Et depuis mardi, on expérimente à l'Assemblée nationale ce qui se passait il y a quelques années, c'est-à-dire on va faire 1h30 de retransmission le mardi, suivi le mercredi de 45 minutes de retransmission. Juste avant 15h, ça s'arrête, parce que dans la foulée, c'est le Sénat qui assure ces questions.
Alors
au gouvernement traditionnel.
Aujourd'hui, en ce mercredi 22 novembre, qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement? Il ne s'est pas passé grand-chose, finalement. On a parlé de la Palestine et d'Israël, mais pas trop. On n'a pas...
C'est-à-dire qu'on a parlé de la Palestine, on a parlé évidemment d'Israël, en répétant de la part du gouvernement que le peuple palestinien n'avait pas à payer les pots cassés de ce conflit entre Israël et le Hamas. Ça, c'est clair et précis. On est évidemment revenu sur cet espoir fragile quand même, mais un espoir quand même dont tout le monde parle ce soir de libération des otages. La question qui se pose, c'est de savoir évidemment si derrière cet échange d'otages, il n'y a pas autre chose. Qui dit vrai? Qui a des intentions honnête? Alors ça, personne ne peut répondre à cette question. J'ai entendu tout à l'heure un sénateur dire à l'Assemblée faut quand même pas oublier que dans cette affaire, il faut quand même pas être des innocents. Certainement que quelque part, le Hamas aura toujours la main ou le doigt sur la gâchette, comme certainement aussi les Israéliens qui ne laisseront rien passer.
Le temps passe vite, hein, que lentement passent les heures, mais aussi les minutes en direct. On peut dire aussi, Fernand, qu'on a évoqué, bien entendu, les inondations dans le Pas-de-Calais.
Dans le Nord-Pas-de-Calais et également en Savoie. Alors, cette fois, tout le monde est d'accord pour dire « c'est pas possible qu'il nous arrive encore ce genre de choses pendant des années et des années ». Le gouvernement et les élus locaux prennent des dispositions ensemble pour finalement faire en sorte que toute cette eau qui risque de retomber une nouvelle fois soit évacuée par des moyens qui ont déjà été expérimentés chez nos voisins belges et hollandais. Ça arrive. Le temps que ça se mette en place, eh bien évidemment, il faudra des mois et des mois. En attendant, évidemment, les assureurs sont priés de faire le maximum. Mais à propos des assureurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ici même, je vous avais dit, voilà ce qui se passe dans certaines communes qui ont été trop ravagés, que ce soit par les inondations ou autre chose.
Les assureurs veulent plus prendre...
Oui, parce que les assureurs ont dû rembourser des millions et des millions à certaines communes. Et aujourd'hui, les communes reçoivent des lettres de leur assureur traditionnel qui s'est terminé. On ne peut plus vous assurer. Ça nous a coûté trop cher. Point final. Voilà. Là, c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui, que ce soit pour les inondations ou autre chose.
On aura l'occasion, bien sûr, Fernand, de vous retrouver tout à l'heure. On peut rappeler, Jacques Yves, vous avez eu déjà une dédicace chez Guerlain. Vous avez retrouvé des amis, vous avez retrouvé
des personnes. Ah oui, ça a été
personnes.
Super. Ouais, oui, ça a été vraiment
c'est-à-dire
formidable.
C'est-à-dire ceux qui, pendant des années, c'est toute une histoire, qui vous ont fréquenté, à qui vous avez donné des conseils pour les livres. Quand vous allez à Bordeaux, dans la fameuse librairie Mola, et que vous vous y trouvez, cette fois comme visiteur, vous êtes parfois un peu désemparé.
Ah, complètement, oui. Oui, oui. J'ai quitté la librairie en novembre. Enfin, novembre, pas de cette année, peu importe. Mais 15 jours après, quand j'allais me promener dans les rayons de la librairie Mola, je commençais déjà à ne plus m'y retrouver. Alors maintenant, je suis comme tout le monde. Hein.
Et puis peut-être aussi, alors il ne faut pas jouer les aigris et tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a plus les gens qui vous renseignent comme autrefois. Vous, chez Guerlain, vous renseignez les gens pour savoir où je trouvais tel type de livre, etc. Là, c'est quand même plus compliqué maintenant.
Chez Guerlain, il y avait des libraires. Des gens qui lisaient, des gens qui aimaient ça, des gens qui connaissaient le métier, qui connaissaient et puis qui lisaient beaucoup.
Dans les librairies, autrefois, il y avait des libraires.
Oui, mais je pense qu'il y en a encore quand même.
Il y en a quelques-uns.
Il y a plus
des vendeurs.
Il faut pas être injuste.
Il y a quand même quelques vendeurs plus que des libraires.
Oui, bon, on ne parle peut-être pas tout à fait de librairie.
Voilà. En tout cas, on se retrouve, Jacques Yves, dans quelques instants. On regarde notre pendule et nous sommes toujours à l'heure, même si les heures passent lentement. Il est pratiquement 18h30. C'est l'heure du journal régional avec Alexis Claudrette qui est en direct avec nous. Bonsoir, Alexis.
Rebonsoir Jean-Pierre, rebonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce mercredi 22 novembre, une convention territoriale globale a récemment été signée entre la Cave des Ardennes et la ville de Sedan pour une durée de 3 ans. Présentation. La Chambre d'agriculture de la Marne et la FDSEA 51 organisent ce jeudi près de Châlons-en-Champagne la 7e édition du Forum des opportunités, un lieu de rencontre unique entre des entreprises et des agriculteurs.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
De nombreux maires de France étaient reçus à l'Élysée aujourd'hui par le président de la République, Emmanuel Macron. L'occasion de les remercier pour leur engagement quotidien dans un contexte singulier. 6 élus ardennais et 11 marnais ont participé à cette réception, dont le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, le maire de Reims, Arnaud Robinet, ou encore le maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu. J'allais dire Boris Ravignon, mais Boris Ravignon...
Il n'y a qu'une ville encore, mais ça peut... Parce que ça pourrait être discuté, Fernand, hein, et d'être maire de plusieurs villes. Ce n'est pas le cumul des mandats, ça, c'est le cumul des villes.
Absolument.
Mais enfin,
pour l'instant, le cumul n'est pas à l'ordre du jour.
Et d'ailleurs, Jean-Pierre, puisque l'on parle de l'Élysée, vous voulez nous parler d'un Ardennais, Jean-Pierre.
Oui, un Ardennais qui a plus de 100 ans et qui vient de décéder. On y reviendra tout à l'heure parce que j'aurai des explications.
On vous laisse retrouver les éléments, Jean-Pierre. Une convention territoriale globale a récemment été signée entre la Cave des Ardennes et la ville de Sedan. Pour une durée de 3 ans, cette CTG est un nouvel outil de partenariat avec les mêmes grandes orientations que les précédentes conventions, avec la notion de territoire en plus et donc la prise en compte de ses spécificités. Une photographie sociale de la ville de Sedan permet à ce nouveau partenariat de mettre en place de nouvelles actions sur des thématiques diverses, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, avec un focus sur l'accès au droit et au numérique. Guillaume Morel, directeur de la CAF des Ardennes.
La convention territoriale globale va permettre de conforter, de développer des services en direction des familles, notamment en matière de petite enfance, d'enfance, de jeunesse, mais aussi, et c'est là peut-être une nouveauté de cet outil de contractualisation avec les communes et les intercommunalités, en matière d'accès aux droits, ce qui est un sujet effectivement majeur aujourd'hui pour permettre aux uns et aux autres de faire valoir leurs droits sur différents domaines. Avant, on parlait de contrats enfance-jeunesse. Comme le nom l'indique, on était sur de l'enfance et de la jeunesse. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de global. C'est-à-dire que lorsque l'on a discuté avec la commune de Sedan, bien entendu, on a parlé enfance, on a parlé jeunesse, mais on a pu aussi ouvrir à d'autres thématiques qui pouvaient intéresser la commune, d'où l'accès aux droits, d'où les questions liées au numérique, par exemple, qui caractérisent cette convention territoriale globale.
À Sedan, sont déjà versés 30 millions d'euros en termes de prestations sociales et familiales. À ce budget conséquent s'ajoute en faveur de la mairie le bonus territoire qui est un apport de la caisse d'allocation familiale de 245 000 euros par an afin de financer services et équipements en direction des familles, soit 49 000 euros supplémentaires que les années et conventions précédentes. Didier Herbillon, maire de Sedan, revient sur le rôle de la ville dans ce partenariat.
L'engagement de la ville, il s'entend avec les partenaires, alors que sont évidemment la CAF, hein, mais aussi les centres sociaux, puis tous les acteurs qui, de loin ou de près, eh bien, traitent de la question sociale sur la ville. Ce sur quoi il faut insister véritablement dans ce document qui vient d'être signé, c'est que on a une adaptation des politiques nationales au territoire. C'est-à-dire que on a la main, au fond, ensemble, sur la spécificité, les spécificités et les besoins du territoire sedanais. Et ça, c'est un peu nouveau. On s'aperçoit que plus les politiques nationales sont adaptées au territoire, plus elles sont efficaces. Je pourrais, par exemple, parler de cœur de ville. On est un petit peu dans les mêmes philosophies. Mais ce sur quoi aussi je voudrais insister, c'est que il y a beaucoup d'argent public, on l'a dit tout à l'heure, et donc il faut qu'il soit bien utilisé. Et pour qu'il soit bien utilisé, il faut assurer le suivi de l'utilisation, évaluer les résultats et faire en sorte qu'on puisse, et c'est pourquoi finalement cette convention elle ne dure que 3 ans, et qu'on puisse modifier et réadapter au fur et à mesure des besoins.
Des propos recueillis au micro de RCF France Ardennes. Jean-Pierre, vous nous aviez promis des informations complémentaires à propos d'un Ardennais récemment décédé, on vous écoute.
Oui, c'est le Palais de l'Élysée qui a communiqué ce matin, par voie de presse, dans une dépêche de l'AFP. C'est une voix centenaire de la résistance qui s'est éteinte. C'est un Ardennais, Jean Villeray, qui avait combattu dans les rangs de la France libre, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il avait été, bien sûr, dans la résistance, mais il avait été aussi dans les camps de concentration. Il avait été au Struthof. Il faisait désormais partie de ce qu'on appelle Nartu Nebel, prisonnier déporté, coupable de rébellion contre le Reich. Et bien sûr, depuis des années et des années, il avait apporté son témoignage, en particulier dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et il était connu dans notre région.
L'antenne rémoise du Secours Populaire a participé ce mercredi matin au lancement de la campagne nationale des Pères Noël Verts. Les bénévoles, vêtus de leur costume vert, sillonnent la France pour collecter des fonds, organiser des parades, réaliser des paquets cadeaux et ainsi venir en aide aux Pères Noël Rouges à travers la France. Ce sont 5000 enfants et parents qui se rendront au Cirque Phoenix à Paris pour assister à un superbe spectacle. 50 participants viendront de la Marne. Le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, a mis à l'honneur ce mercredi les élèves de terminale de l'Académie qui ont participé aux Olympiades des géosciences, de mathématiques et de biologie. Le palmarès est à retrouver sur le site de l'Académie de Reims. La Chambre d'agriculture de la Marne et la FDSEA 51 organisent la 7e édition du Forum des opportunités qui se tiendra à Fagnières, près de Châlons-en-Champagne, demain, jeudi 23 novembre. Objectif, mettre en relation des agriculteurs et viticulteurs en recherche de valeur ajoutée et des entreprises offrant des opportunités en termes de production et de diversification, comme nous l'explique Laurent Champenois, secrétaire général de la FDSEA 51.
L'idée, c'est de promouvoir et de proposer finalement aux agriculteurs une solution de diversification. Donc le forum, le principe, il existe depuis 2012, donc c'est le 7e forum qu'on organise dans la Marne. Il a lieu tous les 2 ans. Sur un seul site, on propose aux entreprises de venir sur ce site-là sur une après-midi. Donc les entreprises qui sont en recherche de producteurs, en recherche d'agriculteurs, qui souhaiteraient se diversifier sur leur exploitation, créer une nouvelle activité. Donc les entreprises viennent sur ce site-là. Et donc les agriculteurs sont conviés et peuvent participer à ce forum-là, d'avoir la chance pour les agriculteurs de pouvoir finalement rencontrer 50 entreprises sur la même après-midi et de se dire j'ai peut-être l'opportunité de faire telle action sur telle activité sur mon exploitation que j'avais pas imaginé, ou telle activité. Donc c'est vraiment un lieu pour les entreprises qui est très intéressant, parce que pour rencontrer 200 ou 300 agriculteurs pour une entreprise, il faut plus qu'une après-midi.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Près d'une 50 d'exposants de divers horizons seront présents ce jeudi, donc de 13h30 à 17h30 au centre André Gallois à Fagnières. L'événement est gratuit, ouvert à tous les exploitants agricoles et viticoles. À 18h38, on s'intéresse aussi dans l'actualité à ce que font nos stagiaires à la rédaction, puisque nos auditeurs ont l'habitude d'entendre leur voix à différents moments de la journée. Kylian est avec nous ce soir, on les switch soirée après soirée. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
La vie à la rédaction, plutôt au pôle communication, pour vous, comment ça se passe? Quelles sont les dernières activités que vous avez mis au point pour nos auditeurs, qui sont aussi parfois nos followers, nos suiveurs sur les réseaux sociaux?
Eh ben, nous avons fini les derniers visuels pour la campagne de Radio Don qui se tient tout au long de cette semaine.
Et notamment, ces visuels, ils consistent en quoi, en quelques mots?
Ce sont des courts reels, ce sont des petites vidéos où nous mettons en avant des témoignages de nos donateurs.
Et on en entendra d'ailleurs certains d'entre eux d'ici la fin de cette émission ce mercredi soir. Merci Kylian. Il va y avoir du sport ce soir pour le 5e match de poule d'Eurocoupe féminine. Les Flammes Carolo reçoivent les Espagnols de Cadillacéu. Une victoire assurerait aux Ardennaises la première place de leur groupe. Coup d'envoi à 20h. Par ailleurs, en football, le projet de fusion entre le club sportif Sedan Ardennes, Prix-les-Mézières et l'Olympique de Charleville-Mézières a du plomb dans l'aile. Le banquier d'affaires rémois Guy Cotret a annoncé hier soir se retirer du projet faute d'accord rapide entre les différentes parties prenantes de ce projet. En fin de journal, on retrouve la météo et ce soir à 18h39, c'est avec notre stagiaire à la rédaction, Mathéo Hardy. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi?
Pour ce jeudi dans les Ardennes, attendez-vous à un temps très nuageux avec 7 degrés à Rethel et Charleville. 8 degrés vous accompagneront à Sedan tout au long de la journée. Dans la Marne, le ciel ne change pas, il est toujours aussi nuageux. Le matin, il y aura 8 degrés à Reims et Épernay. L'après-midi, il fera 11 degrés à Vitry-le-François et Châlons-en-Champagne. Dans l'aube, les températures ne changent pas et le temps non plus. Le matin, il fera 6 degrés, puis à partir de midi, 9 degrés à Romilly-sur-Seine. Le temps Haute-Marne sera similaire à celui de l'aube avec 1 degré à Chaumont et Saint-Dizier. Enfin, l'après-midi, les thermomètres afficheront 6 degrés à Langres. Demain, nous fêterons les Cléments.
Eh bien, en avance, une bonne fête à tous les Cléments. Merci Mathéo, on vous retrouve demain avec d'autres tendances météo. Tout de suite, on parle Radio Don sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Martine, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous en cette semaine si spéciale. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes une fidèle auditrice de la radio RCF Reims-Ardennes, mais aussi une fidèle donatrice. D'abord en tant qu'auditrice, j'ai envie de vous interroger là-dessus, mais savoir qu'est-ce qui vous plaît dans les programmes de RCF.
Déjà le slogan « La joie se partage », je le dis à qui veut l'entendre. Voilà. Et avec RCF, on voyage dans le diocèse, dans le monde, et puis en plus une radio chrétienne, animée par beaucoup de bénévoles, il y a des salariés qui sont très efficaces. J'en ai été aussi un temps avec Chant et Liturgie, que nous avons enregistré chaque mois à Charleville. Pour nous, à Vouziers ou Rethel, des émissions proches du monde rural, nous y tenons beaucoup. C'est aussi le lieu de l'expression des passions, soit la musique, le livre, l'histoire, le tourisme, etc. Toujours à l'affût de ce qui se vit localement, au niveau du diocèse, de l'Église universelle, du monde aussi, par exemple le festival du marionnette à Charleville. À chaque rentrée, il y a des émissions nouvelles. Je regardais tout à l'heure pour pas me tromper. Je crois qu'il y a eu cette année Votre Mère vous parle.
Tout à fait.
Les nouvelles du monde. Et puis Sportiplex. Il ne faut pas que j'oublie les jeunes. Et puis ce qui peut plaire aussi, que j'écoute en déjeunant souvent, des temps de prière le matin, la prière monastique, le journal de Radio Vatican. Alors ça, je suis très fidèle, matin et soir. Les paroles de jeunes le samedi. C'est des choses qui m'intéressent vraiment.
Eh bien, en voilà. Tout cas, un grand merci, Martine, pour votre témoignage, votre fidélité à notre station RCF. Mais vous êtes une auditrice un petit peu particulière, parce que bien plus qu'une auditrice, vous êtes une donatrice. Ça veut dire que pour vous, RCF compte tellement fort dans votre vie, dans votre quotidien, que vous avez fait le choix de nous soutenir. Pourquoi vous avez fait ce choix, Martine ?
Bah, avec mon mari, on aime beaucoup RCF pour tout ce que je viens de dire. On veut que RCF vive et continue. Je sais que RCF vit beaucoup à partir de dons. Et il faut la réveiller les peuples pour qu'il y en ait davantage. C'est une station que j'aime, tout simplement. L'actu, la vie spirituelle, l'économie, la culture, le quotidien. Tout ceci me passionne et passionne aussi mon mari.
Eh bien, on est très content de pouvoir vous accompagner, Martine, votre mari et vous, dans le quotidien, et puis presque, j'allais dire, s'immiscer dans votre intimité, parce que c'est vrai que souvent on écoute la radio, on est dans sa voiture, on est dans la cuisine, parfois même dans la salle de bain, mais on est très content de pouvoir vous accompagner.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Mais de rien, Alexis. À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h43, on retrouve Jacques Yves et Fernand Tavares qui sont avec nous jusqu'à 19h. Que lentement passent les heures, c'est le livre que vous venez d'écrire, Jacques Yves, que vous dédicacez à Joncherie samedi à 10h30, le 25 novembre. Alors on peut rappeler, parce que je l'ai rappelé plusieurs fois, que finalement, il y a une photo dans ce livre, c'est une valise. Mmh. Vous aimez les voyages, et votre livre, c'est un voyage finalement.
Oui, c'est un voyage. C'est
dans même, le temps, dans l'histoire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux voyages en parallèle. En fait, c'est à la fois le voyage dans le temps, puisque le héros, ce libraire-là, est doué, lui, de cette faculté de voyager dans le passé, seulement dans le passé, hein, parce que dans l'avenir, on ne peut pas. Bon.
Alors, dans le passé, vous avez rencontré...
Et dans le passé, quand on est libraire, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va rencontrer des auteurs. Alors, lui, il a un prétexte et il a une bonne raison de voyager dans le passé. Déjà, il a envie d'aller visiter ce notamment ce Paris des années 1910-1914.
Oui, c'est dans cette période.
Oui,
vous
voyagez. C'est une passion
personnelle.
Voilà, oui. J'avoue que je lui ressemble un peu.
Oui,
mais moi,
vrai.
Je ne voyage pas. Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est l'occasion, je vous interromps un peu, Jacques Vieis, de rappeler comment vous travaillez, parce que vous devez avoir une documentation. Quand vous parlez d'Apollinaire, quand vous parlez de Blessandrard, de Jean Jaurès, eh ben, il va falloir quand même réfléchir sur ne pas commettre des erreurs historiques, des anachronismes, etc. Donc, ça nécessite beaucoup de travail.
Oui, oui. Alors, c'est vrai, j'ai pour habitude d'écrire des romans historiques. Qui dit roman historique dit documentation, forcément. Et là, bon, bien que le libraire en question, héros du bouquin, ait cette faculté de voyager dans le temps, ce qui n'est pas commun, il a fallu que je me documente énormément sur à la fois l'époque et les personnages qu'il va rencontrer.
Donc, pour pouvoir ensuite écrire, il faut s'imprégner d'une ambiance, s'imprégner à la fois aussi des écrits s'ils en ont fait, des documents, d'archives, des choses comme ça. Ça prend un temps fou. Alors, faut dire que du côté de Bordeaux, entre Andernos, que j'ai cité tout à l'heure, et puis toute cette belle région qui va vers les Landes, vous avez peut-être le temps, quand même, de réfléchir.
Ah oui, 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 non, mais je prends le temps. Il faut prendre le temps. Ça prend énormément de temps, oui, bien sûr.
On aura l'occasion de revenir avec vous. Juste un petit clin d'œil à l'actualité avec vous, Fernand, car vous avez rappelé quand même qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, on a beaucoup évoqué la crise palestinienne, mais il y avait quand même un consensus relativement global pour dire quand même qu'il fallait s'occuper du peuple palestinien. C'est un peu l'idéologie actuelle, ça.
Oui, ça fait quand même, sur cette antenne de RCF, ça fait depuis le 7 octobre, ça fait déjà un mois et demi qu'on parle de tout cela. Et aujourd'hui, plus de temps passe, enfin, il semble y avoir au moins sur un point une sorte de consensus politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le gouvernement, en passant aussi par l'Élysée. Sur quoi ? Ben, ce sur deux nous avons déjà parlé, c'est que aujourd'hui, au milieu de ce conflit ou à cause de ce conflit, des milliers et des milliers de Palestiniens, dont une majorité ne sont pour rien dans tout cela, en principe, mais qui sont minés par la présence du Hamas, ça tout le monde est d'accord, mais qui sont aussi minés et frappés par la réaction d'Israël, donc qui se retrouvent blessés, démunis dans les hôpitaux, etc. Alors la France a quand même pris le chemin, a annoncé il y a quelque temps qu'on envoyait des secours, des médecins, etc. C'est les choses faites, ça a été réaffirmé aujourd'hui. Et curieusement, à l'Assemblée nationale en particulier, comme je vous l'ai dit, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la France insoumise, qui avait hurlé quand même pendant des semaines et des semaines, tout le monde observe que la France enfin porte secours aux Palestiniens en envoyant des moyens aux hôpitaux, des médicaments, 5 tonnes de médicaments. D'autre part, en proposant de faire venir en France une cinquantaine d'enfants ou d'adultes blessés dans les hôpitaux français en cas d'urgence. Donc ça continue. Donc l'aide humanitaire, l'aspect humanitaire est enfin admis par tout le monde et il ne fait plus de différence au sein de la classe politique.
On y reviendra tout à l'heure avec vous et surtout on parlera des inondations dans le Pas-de-Calais. Jacques Ivès, on évoquait les personnages que vous rencontrez comme libraire, même si ce n'est pas vous, au cours de ce voyage dans le temps, dans l'histoire. Et en particulier Jean Jaurès, c'est vrai que nous sommes à la veille, on peut le dire, de la déclaration de guerre en 14, le 1er août, je crois, de 1914, et il y a l'assassinat de Jean Jaurès dans un café à Paris. Alors là, on vit l'événement un peu comme un journaliste, comme si on y était.
Minute après minute, mais je n'en dirai pas plus parce que...
Oui. Vous êtes intervenu.
Le suspense.
Il y a un suspense. Mais d'ailleurs, on raconte, mais bon, vous avez travaillé à cette question, mais je ne suis pas sûr de ne pas me tromper moi-même, c'est que celui qui a tué Jean Jaurès, c'était un Rémois.
Oui.
Et donc, voilà, ça c'est très important.
Oui, oui.
Et donc, c'est sûr que ça fait partie aussi de l'histoire de Reims, d'une certaine façon.
Oui, on retrouve quelques éléments de l'histoire de Reims, j'allais dire anecdotique. Là, on n'est pas dans l'anecdote tout de même.
Oui, parce que vous l'avez dit d'ailleurs dans des interviews que vous avez faites ou sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, c'est qu'au fond, c'est pas vous, Mais vous êtes obligé quand même, quand vous parlez, on retrouve quand vous parlez de Reims un petit peu des quartiers où vous êtes allé, enfin, vous êtes obligé quand même, au détour d'une phrase, d'évoquer ce
c'est
votre
vrai.
Propre
Alors,
parcours.
Ça ne fait pas partie de mes habitudes, mais c'est vrai que dans celui-ci, oui, il y a trois passages où, effectivement, on pourrait me reconnaître si on en avait envie.
Et quand vous écrivez, vous mettez dans les cartes, dans une petite cabane, vous restez chez vous, et vous rayez beaucoup?
Je suis chez moi, alors je ne raye pas parce que je travaille sur un ordinateur, mais bon, on m'a souvent demandé, mais comment, enfin, des gens m'ont souvent dit, j'aimerais bien écrire, mais je ne sais pas. Moi, je leur réponds. L'important, c'est de commencer.
Après, voilà.
À partir de là, moi, je commence. Après, ça n'est pas forcément.
On va revenir sur ce livre, mais on a envie quand même de vous dire, à chaque fois qu'il y a un livre qui est fini, il y en a un autre qui se prépare.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui.
Vous en avez un qui se prépare.
Alors, je pense à la suite de celui-ci, je me suis rendu compte que. Certains personnages m'avaient passionné, notamment Apollinaire. Et Apollinaire, donc on en a parlé tout à l'heure, j'ai lu énormément sur Apollinaire. Et j'ai continué de me documenter sur Apollinaire, qui était un personnage fascinant, qui a traversé son époque brillamment, je dirais, qui malheureusement n'a pas vécu longtemps, puisqu'il est mort à 38 ans, à deux jours de l'armistice de 18. Il est mort le 9 novembre 1918. De la grippe espagnole.
Et alors, ce qui est incroyable, d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui font ça, c'est que, d'une certaine façon, ils conçoivent leur livre un peu comme une, je ne dis pas une série, mais c'est-à-dire, il y a des retours dans le livre suivant à l'expérience précédente. Le fait de remettre sur la sellette Apollinaire, que vous évoquez dans le titre lui-même, puisque c'est un vers d'Apollinaire, ça veut dire que, finalement, vous prolongez d'une certaine façon. Parce qu'on a un style, on a une manière de faire.
Oui, c'est pas faux. Ça n'était pas du tout mon intention, mais finalement, oui.
Quand on réfléchit,
effectivement, je me suis pris de passion pour Apollinaire et j'ai fini par écrire. Alors, je ne dirais pas une biographie parce qu'il y a un côté un peu poussiéreux et universitaire dans l'affaire. Une vie d'Apollinaire, parce que vraiment, il a vécu sa vie intensément.
Mais vous-même, vous lisez, vous avez lu pas mal de livres, vous lisez beaucoup, mais quand vous aviez des clients qui venaient à la librairie, vous étiez parfois sidéré du nombre de livres qu'ils lisaient.
Ah, mais j'avais des clients qui lisaient plus que moi, oui.
Et qui lisaient énormément de livres.
Ah oui, bien sûr.
C'est fantastique.
Oui,
de
oui je lisais
livres.
Beaucoup, mais...
Parce qu'à force de lire et de lire des écrivains de talent, finalement, on s'habitue à une musicalité de la voix, de l'écriture. Et finalement, il y a une certaine forme de musique qui vous entraîne peut-être quand vous écrivez. Car les livres resurgissent d'une certaine façon. Peut-être.
Peut-être.
C'est une interprétation. Je me croirais. Vous savez, je reprends 30 ans de moins, comme si c'était, vous savez, ces conférences chez Guerlain où on a interrogé les auteurs et on posait ce genre de questions. Et c'est vrai qu'on est loin de l'actualité. On y revient tout de suite avec vous, Fernand, à propos des innovations dans le Pas-de-Calais, mais surtout autour de la violence qui s'est déroulée dans la Drôme, en particulier à Crépol, où le jeune Thomas de 16 ans a été poignardé.
Alors, on en a parlé, évidemment, au Parlement, hier et aujourd'hui, avec quand même des questions très précises et en particulier une indication quand même et un souhait de chacun, c'est qu'il n'y ait pas sur ce genre d'affaires de récupération politique, évidemment, c'est tentant. Pourquoi ? Parce que ces agressions se multiplient, des coups de poignard, que ce soit chez les enseignants ou chez des jeunes qui passent par hasard ou chez des hommes ou des femmes sur des trottoirs comme ça, graphiquement.
C'est quand même un peu inquiétant, Fernand.
C'est très inquiétant et le Congrès des maires de France, au Congrès des maires de France, cette situation a été évoquée parce que les maires sont en première ligne. Dans une commune comme Crépol que vous venez de citer, il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'était une petite fête. Pourquoi des jeunes sont venus comme ça pour pouvoir en découdre et surtout sortir des couteaux et poignarder un jeune de 15 ans. Aujourd'hui, il y a eu à Bourg-sur-Isère une marche blanche. 6000 personnes dans la dignité. Tout le monde a marché d'un seul pas et d'une même voix. On réclamait beaucoup plus de sécurité et d'attention de la part du gouvernement. Évidemment, ce gouvernement a été interrogé à l'Assemblée comme au Sénat. Alors, on dit, mais il faut davantage de policiers, davantage de police de proximité. Et c'est vrai que le gouvernement sort les millions et les millions. Ainsi, la Première ministre a annoncé aujourd'hui 239 brigades de gendarmerie supplémentaires. Vous vous rendez compte, il faut faire vite, il faut en former aussi. Et d'autre part, ça fera 2000 gendarmes supplémentaires qui vont être distribués et installés dans toute la France.
On aura l'occasion de nous retrouver la semaine prochaine, Fernand. On développera davantage un certain nombre de sujets. On va terminer avec vous, Jacques Ivès, pendant une ou deux minutes, parce qu'au fond, on renvoie à la signature. Finalement, j'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver plus longuement, d'ailleurs avec Anne-Marie et Daniel Guerlain, pour évoquer cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont connu, qui ont connu cette histoire de la librairie. C'est, bien sûr, c'est du passé, vous me direz. Mais c'est une longue histoire et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui voudraient la faire leur dans le présent aujourd'hui. Car quand on voit le nombre de personnes qui sont intéressées par le livre, quand on dit aux jeunes, lisez, alors pas seulement sur leur smartphone, mais lisez un petit peu parce que à travers la lecture, à travers la littérature, on a un approfondissement et surtout un éclairage sur la société.
Et il faut que l'instruction civique revienne dans les livres, dans toutes les écoles.
Ça, c'était la parole, on reconnaît ici, bien sûr, Fernand. Jacques Ivès, on vous remercie d'avoir été
merci
avec
Merci Jean-Pierre.
Nous. Alors, à Jonchy-sur-Vel, j'espère qu'il y aura du monde. Et vous reviendrez, parce que vous avez de la famille à Reims. Et d'ici quelques temps, peut-être en janvier, février ou mars, au moment du printemps, on aura l'occasion de vous
peut-être
de vous retrouver.
Qu'on pourra rencontrer Apollinaire
peut-être,
dans un bouquin.
Voilà, on rencontrera Apollinaire comme La Ronce et le Coquelicot, que vous avez écrit en 2013, ou Carmen ou les ailes d'un ange en 2017. Et là, c'est que lentement passent les heures. Merci Jacques Ivès avec nous. Merci Fernand Tavares. C'est à vous Alexis.
À 18h56, Jean-Pierre, puisque demain il y aura une émission exceptionnelle. Vous le savez, hier on a appris le départ de Mgr François Touvet du diocèse de Châlons pour être parti en tant qu'évêque coadjuteur dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Jean-Pierre, oui,
vous et puis l'émission spéciale, ça sera la semaine d'après à Châlons. Et puis signaler quand même que demain matin, l'invité concernera le marché de Noël qui va ouvrir vendredi et nous aurons Vincent Mansancal en direct.
Donc pendant les étapes les unes après les autres, Mgr Touvet le retrouvera dans un premier temps demain soir, Jean-Pierre, à 18h40 à peu près, à la fin du journal régional. On n'aura donc pas l'occasion d'avoir la chronique Radio Long avec nos différents témoins. C'est pourquoi Claire, une fidèle autrice de RCF, est aussi avec nous dès ce soir. Claire, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être en ligne avec nous à l'occasion du Radio Don sur RCF. Claire, si vous êtes en ligne avec nous, c'est parce que vous êtes une fidèle auditrice, mais bien plus que cela, aussi une fidèle donatrice qui soutenait RCF. Alors on pose la question finalement à tous nos invités cette semaine, mais qu'est-ce que vous aimez, vous, dans les programmes de RCF, Claire, plus particulièrement ?
D'abord parce que RCF n'a très peu de publicité, une information très objective, une sobriété, une précision par rapport aux événements. Et c'est direct au but, donc c'est très précis, ça dure pas trop longtemps, mais on sait à quoi s'en tenir. Il y a aussi cette liaison avec Radio Vatican, parce que Radio Vatican, j'en avais beaucoup entendu parler il y a 30 ans, 40 ans, et je suis jamais arrivée à l'attraper sur les petites ondes, ça s'appelait les ondes courtes, je sais pas. En plus, c'est une radio vraie, vivante, directe, qui est proche des réalités, et qui rapproche nos deux départements qui forment qu'un seul diocèse. Voilà déjà ça.
Eh bien, c'est déjà un très beau témoignage, Claire, que vous nous donnez là. Comme on l'a dit en introduction, au-delà d'une simple auditrice, j'allais dire, vous êtes une donatrice. Ça veut dire que pour vous, la radio est tellement importante que vous faites le choix de la soutenir. Pourquoi avoir fait ce choix, Claire ?
Oh, je l'ai fait dès le début. Quand ça a commencé en 86, à peu près, c'était les années du Mgr Ballan. Et j'étais très enthousiaste dès le départ d'avoir des nouvelles du diocèse, d'avoir des nouvelles à propos des mouvements, à propos de ce que l'Église vivait. Et puis, tout s'est affiné peu à peu. Et alors là, je continue depuis le Covid parce que vous nous avez énormément soutenus par les prières, les liaisons en France, partout. On avait des jaillissements de témoignages, combien vous nous avez soutenus pendant ces 3 mois. Et puis après, vous avez démarré. Les soutiens du soir, les soutiens de prière, etc. Il n'y a eu plus seulement la prière du matin, mais la prière du soir. Tout ça était très important pour moi. Et puis, de temps en temps, je mets la radio dans la journée, pas très souvent parce que je suis pas souvent chez moi, et c'est toujours passionnant.
Eh bien, on est très content, Claire, de faire partie de votre quotidien, de vous accompagner régulièrement avec les ondes de RCF. Et nous, on vous dit, au nom de toutes les équipes de RCF, évidemment, un grand merci pour votre fidélité et bien plus encore pour votre générosité. À très bientôt, Claire, et merci pour votre témoignage.
Et à bientôt et merci.
Voilà Jean-Pierre, je vous passe la main pour remercier nos auditeurs et leur dire au revoir.
Un grand merci à nos auditrices et nos auditeurs qui nous aident, puisque vous le savez, dans cette dernière ligne droite avant Noël et la fin du mois de décembre, c'est l'occasion pour nous de mener cette opération en sollicitant bien sûr nos auditrices et nos éditeurs. C'est l'heure de nous séparer dans quelques secondes le journal national de 19h. Merci à Jacques Ives, merci à Fernand Tavares, merci à nos deux jeunes stagiaires Kylian et bien sûr Mathéo. Et puis avec vous Alexis, qu'on retrouve bien sûr fidèle au poste, toujours en direct, toujours dans les starting blocks. C'est demain 18h10, 19h. Bonne soirée, à bientôt.